Agora, la radio en liberté.
Le magazine.
Bonsoir, c'est avec la guitare de Neil Young que commence Onde Noire, l'émission d'Agora FM sur l'actualité du polar.
Bonsoir, eh bien on embraye directement sur une actualité récente, un peu péonasse, mais bon. Donc début novembre, une nouvelle collection voyait le jour dans la collection Poche des éditions Seuil, qui est donc la collection Point. Après Point Seuil Policier, dont nous parlons régulièrement, et Point Seuil Thriller, Point Seuil Noir. Et pour en parler avec nous ce soir, celui qui s'occupe de cette collection, Lionel Destremont. Lionel Destremont, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Donc, comme je viens de le dire, on a déjà deux très belles collections chez Seuil, Point Seuil, c'est-à-dire Point Seuil Policier, Point Seuil Thriller. Pourquoi maintenant distinguer le genre noir ?
Alors, c'était forcément la question de démarrage. En fait, c'est assez simple. On est parti d'un constat sur la collection Point Policier, qui a une identité très forte et qui est marquée par des auteurs comme Michael Connelly ou Henning Mankell, mais qui a cette identité très marquée sur le policier au sens assez traditionnel du terme, c'est-à-dire un meurtre, une énigme quelconque et la résolution de cette énigme au final, avec un enquêteur de quelque nature qu'il soit. Cette identité très forte nous semblait difficile à détourner de son propos en y insérant du thriller ou du noir, là où des collections comme Folio Policier ou Rivage Noir, on va dire dès l'origine, avaient commencé à mélanger tous ces genres-là. Mm-hmm. Donc quand il s'agit de d'essayer d'ouvrir la porte un peu plus au thriller, on a créé une collection dédiée. Et quand la question s'est posée de se dire, après tout, on a dans le fond, notamment au Seuil et particulièrement aux éditions de l'Olivier, un certain nombre de titres très importants en roman noir, je pense à Pete Dexter et à d'autres auteurs, on s'est dit, plutôt que d'essayer de perdre peut-être un peu le lecteur sur Point Policier, qui a l'habitude de retrouver un certain genre de littérature policière, on va essayer de mettre en avant et en exergue le roman noir, pas forcément en tant que genre à part entière, puisque c'est un des genres dans les littératures noires qui est le plus perméable et qui, justement, est un peu à cheval entre littérature générale, policier au sens traditionnel, voire d'autres genres, puisque dans le noir, on peut même trouver parfois du fantastique ou des choses comme ça, ou des textes plus humoristiques ou décalés. Mais en tout cas, essayer de lui donner une marque assez forte, sans brouiller complètement l'image de Point Policier, qui, elle, était déjà très marquée.
Mmh. Alors, je vais peut-être insister un petit peu et faire peut-être un peu l'avocat du diable, parce que j'adhère totalement avec ce que vous dites, surtout que nous sommes des fans dans cette association du genre noir. Mais c'est vrai que quand on discute avec des auteurs ou des éditeurs étrangers, ils trouvent souvent étonnant cette manie. C'est très français de catégoriser, voire d'inventer des sous-catégories, y compris dans les collections de poche. Donc, en fait, c'est un petit peu pour donner des habitudes. Vous avez déjà un peu répondu, mais c'est vraiment pour donner une habitude au futur acheteur.
C'est assez difficile, c'est-à-dire que effectivement c'est très français, en même temps on publie en France. Donc on peut pas non plus se dire on va adopter une méthode américaine par exemple et dire on va publier des livres en France dans une collection sous le même intitulé général qu'aux États-Unis. Je vous prends un autre exemple, c'est la fantasy. En France, la fantasy a une identité bien spécifique, là où aux États-Unis ils sont mélangés la science-fiction, l'anticipation au sein d'un grand genre qui s'appelle fantasy. En France, on pourrait pas fonctionner comme ça parce que effectivement l'identité est très marquée et le repérage des lecteurs serait brouillé. C'est un peu la même chose, je dirais que c'est vrai que la segmentation peut parfois amener à problème. C'est sans doute le le plus compliqué sur cette collection Roman Noir, parce que justement c'est le plus perméable, qu'il y a des titres qui sont parus en littérature générale à l'origine et pas du tout dans des collections marquées noires. En même temps, vous parliez des auteurs tout à l'heure, et je vous prendrai un exemple assez simple, c'est Thierry Jonquet. Le titre qui est sorti dans la première salve des romans noirs en poche était sorti au Seuil en grand format à l'origine, et Jonquet lui-même avait souhaité ne pas être dans la collection Seuil policier de Pépin, mais être hors col avec la mention Roman Noir sur la première de couverture du grand format. Il a insisté particulièrement là-dessus puisque il y avait dans son idée une inscription d'une critique sociale très forte et très marquée dans son texte, beaucoup plus que sur l'aspect divertissement entre guillemets qui est parfois accolé au polar. Voilà. Donc il y a, oui, je suis assez d'accord sur le fait que les distinctions sont parfois un peu outrances. En même temps, on va dire que dans une librairie, tous ces genres-là sont au même rayon.
Oui, j'allais un peu parler des librairies. On a quand même, bon, maintenant, 21e siècle, il n'y a plus la même habitude quand on rentre dans une librairie. En plus, on a beaucoup ce qu'on appelle, sans que ce soit dans des hypermarchés, mais ce qu'on appelle un peu des supermarchés du livre, des très grandes librairies. Et cette catégorisation permet quand même aux lecteurs, peut-être, d'aller plus vite chercher ce qu'ils souhaitent.
Il y a ça, d'une part, c'est sûr, et puis il y a la deuxième chose qui est ce que j'appellerais l'effet collection. C'est-à-dire que, bon, tous les lecteurs fonctionnent pas comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est souvent le cas. Je suis souvent attaché à une collection, c'est-à-dire à une orientation éditoriale d'une collection, et du coup, je me dis, bon, bah, j'ai beaucoup aimé tel ou tel bouquin, et je vais aller dans cette collection en particulier parce que je suis rarement déçu, en fait. Je retrouve un peu, avec cet effet collection, je sais déjà ce que je vais pouvoir y trouver, en fait. Donc même si je peux avoir un certain nombre de surprises sur ce qui est publié, dans l'ensemble, en termes de qualité globale, d'orientation éditoriale, je sais que je vais aller retrouver en rivage plutôt tel genre de texte, en folio plutôt tel genre de texte, en point tel autre, etc. Donc l'effet collection peut aussi jouer sur une identification un peu plus forte à certains genres. Quoi.
Alors justement, l'effet collection, comment définiriez-vous un petit peu, à part le thème genre noir, la ligne éditoriale de cette collection poche?
Alors la ligne, elle est assez à la fois simple et en même temps compliquée parce que, je le répète, le noir fait partie de ces genres compliqués.
C'est très protéiforme, si
voilà,
je peux me permettre.
De perméabilité entre les genres et de passerelle de littérature générale et noire. C'est un peu comme ça que je conçois la collection. C'est-à-dire que il y a dans cette collection des titres qui effectivement sont parus à l'origine en littérature générale. C'est le cas par exemple de la plupart des livres de Pete Dexter aux éditions de l'Olivier, ou sont parus dans des collections comme Soul Fiction à l'Olivier encore, mais qui était une collection dédiée à la littérature noire américaine. Et en même temps, il y a des titres qui, effectivement, viennent d'autres éditeurs grand format, plus estampillés, polar au sens strict, ou noir directement, comme certains livres qui seront repris l'an prochain, qui viennent de chez Métellier, qui sortent de la collection noire chez Métellier. Bon, l'idée de cette collection, c'est effectivement s'axer sur le noir en tant qu'un genre qui va mettre l'arrière-plan social ou la critique sociale l'importance d'un fonctionnement de peinture de la corruption des milieux urbains, de la drogue, des univers de la ville ou des univers politiques, de toutes ces questions-là qui sont en fait qui sous-jacentes dans la plupart des romans noirs, et où on ne trouvera pas forcément, ce qui est le cas dans 80% des romans noirs aussi, une résolution d'une enquête ou d'une énigme. Il peut y avoir un meurtre, il y en a même souvent, mais on trouve pas forcément le meurtrier à la fin. Le héros principal est loin d'être un héros récurrent. Dans la plupart des cas, il n'apparaît qu'une seule fois, et parfois même il meurt avant même la fin du livre. C'est tout ça qu'on retrouve dans le roman noir, à l'inverse du policier, où se développent beaucoup plus des séries, avec un enquêteur récurrent, avec un couple d'enquêteurs qu'on va retrouver régulièrement, qui vont avoir de nouvelles aventures. Dans le noir, on est beaucoup plus dans une forme de one-shot, où l'atmosphère, la tension et l'ambiance particulière de chaque livre va être vraiment corseté, on va dire. Il va y avoir un contenu qui est un peu carré, comme ça, où on s'immerge complètement et où on a souvent même du mal à sortir soi-même. et où on ne sait pas trop où on va, mais on sait en tout cas que derrière cette, l'histoire, la narration, le romanesque qu'il y a, il va y avoir un arrière-plan de, on va dire, oui, de critique, souvent d'une critique sociale.
Il y a souvent une critique sociale. Je reprends un de vos termes que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'il y a souvent des atmosphères dans ces romans noirs. Et particulièrement, donc, 5 sont sortis début novembre. On va les citer parce qu'ils sont tous intéressants, tous très différents les uns des autres, mais tous très intéressants. Je commencerai par quelqu'un qu'on connaît malheureusement peu en France, et pourtant une de ses séries est super connue, enfin un de ses romans est super connu, c'est Pete Dexter, et vous avez l'excellente idée de ressortir Paperboy. Alors Pete Dexter, tout le monde le connaît parce que c'est lui qui a écrit un livre qui s'appelle Deadwood, dont est tirée la série assez célèbre maintenant.
Oui, alors Dexter, c'est assez bizarre d'ailleurs qu'il manque autant de reconnaissance parce que aux États-Unis, il fait partie des grands au même titre que Kelroy and Co. Enfin, il a une vraie reconnaissance auprès des grands auteurs de littérature noire, policière ou littérature générale même dans certains cas. Dexter, c'est pour moi un des grands auteurs du roman noir américain. Là, Paperboy, c'est à mon sens l'un de ses meilleurs livres. J'attends avec impatience son nouveau qui va sortir en février, l'Olivier, son nouveau grand format. Mais là, on est dans une grande veine à la Dexter, c'est-à-dire que on part sur une enquête qui est au départ une enquête assez simple de deux reporters qui prennent l'affaire d'un homme qui est dans le couloir de la mort, qui est accusé d'avoir assassiné un shérif et qui va être exécuté. Et en gros, ils vont essayer de prouver son innocence pour le sortir du couloir de la mort. Bon, mais évidemment, tout ça va être beaucoup plus compliqué que ça ne paraît au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont arriver à prouver son innocence, mais ils vont y arriver avec les méthodes journalistiques, du journalisme d'investigation américain très poussé, etc. Et en fait, ils vont se tromper. Et ils vont sortir du couloir de la mort un véritable assassin, et pas qu'un assassin, un mec particulièrement, on va dire, méchant et malsain à tous égards, qui vit dans les bayous au fin fond du sud des États-Unis, où ils vivent en famille dans des coins complètement reculés, en vivant les uns, enfin en se mariant les uns avec les autres. Enfin bon, c'est vraiment un arrière-plan de la basse société blanche américaine pauvre, particulièrement illettrée. Et sans aucun code moral. Ils vont se brûler les ailes dans cette enquête-là, en fait.
Ouais. Alors, je n'arrive plus à parler parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on a vraiment envie de plonger sur ce livre. Un autre livre, et ça me donne l'occasion de dire que ce qui nous a beaucoup interpellé et intéressé dans ce choix, c'est que souvent dans les collections de poche, on retrouve ce qui a été dans la grande collection. Donc, ça peut être dans l'immense catalogue de La Martinière, vous avez largement le choix, mais des livres qui sont en général sortis il y a 2-3 ans. Et là, on va rechercher beaucoup plus loin et on va retrouver des petits bijoux, comme le livre de Tim Willock, qui était initialement sorti en 99, ça commence à faire, hein. Bad City Blues, vous pourriez nous en dire quelques mots, parce que c'est un livre vraiment à découvrir ou redécouvrir.
Alors, des cinq titres, Willock, c'est celui qui, pour moi, est le plus un peu à part sur ce lancement, parce que c'est celui sur lequel, on va dire, il y a le moins d'arrière-plan de critique sociale. En revanche, on va être dans un hyper-réalisme très, très violent, très déjanté, très percutant, voire même provocant, puisque c'est une histoire de deux frères ennemis qui sont dans une sorte de cavale infernale dans la Nouvelle-Orléans, sous une chaleur complètement étouffante. Ça va très vite dégénérer, puisque l'un est un psychopathe criminel, et l'autre est devenu un psychiatre spécialisé des criminels. Et l'un et l'autre se courent après depuis des années, et on va aboutir à des scènes qui sont assez proches, par exemple, d'une scène de Reservoir Dogs de Tarantino, où il y a un moment de torture assez effroyable. C'est une descente aux enfers, en fait, ce bouquin-là. C'est une grande descente aux enfers. Ça se lit comme du petit lait, parce que c'est écrit d'une manière très, très rapide et percutante. Le Willock, on joue beaucoup plus, là, chez Willock, sur l'hyperréalisme, la psychologie des personnages, le détournement malsain qu'il peut y avoir dans le côté psychiatrique presque du terme. C'est pas pour rien que Willock a une formation psychiatre à l'origine, et oui, ça déteint complètement sur sa façon d'écrire.
Et on reparle, là c'est la grande tradition de ce que j'appellerais le roman noir anglais avec Robin Cook et des descentes psychologiques absolument terribles. Vous avez évoqué le Thierry Jonquet, donc un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. On n'a pas cité le titre, donc ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est peut-être celui qui est le plus connu dans ces rééditions.
Alors c'est plus récent, c'est sans doute aussi celui qui est le un peu le fer de lance du lancement, parce qu'effectivement c'est un livre qui a connu beaucoup de retentissement. C'est un livre assez difficile parce que c'est un livre qui pose beaucoup de questions sur le positionnement de l'auteur, sur ce qui est dit, sur le racisme ordinaire, sur l'antisémitisme, sur la crise des banlieues, sur les zones de non-droit qui se développent autour des cités. C'est un livre vraiment, là pour le coup on est dans un engagement très marqué, politisé en un sens, très hyperréalisme social, mais là de l'extrême contemporain. Et ce qui était vraiment très marquant chez Jonquet, c'est que quand il parlait du livre, pour en parler aux représentants, je m'en rappelle, il disait qu'en fait il avait commencé l'écriture du livre juste avant la crise des banlieues, et quand il a terminé l'écriture du livre, qu'il a rendu son manuscrit, les banlieues ont explosé. Et il a dit c'était effrayant parce que d'habitude c'est plutôt la fiction qui rejoint la réalité, mais là c'est la réalité qui a rejoint la fiction.
Et ce qui est très très intéressant, c'est que je crois que c'est aussi une autre définition du roman noir, qui s'appelle noir bizarrement, mais qui justement évite souvent beaucoup de manichéisme, et Thierry Jonquet sait parfaitement le faire, en plus avec un style absolument magnifique, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc ni noir quand on regarde un fait de société ou une communauté, mais qu'on est tout dans les tons de grisé, et Thierry Jonquet est particulièrement brillant là-dessus.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors on part au Mexique avec Enrique Serna et La peur des bêtes.
Alors là, c'est autre chose. Ce sera un peu la collection va se développer aux alentours d'une douzaine de titres par an, donc c'est pas non plus énorme. Là, il y en a eu 5 pour le lancement parce qu'il fallait un peu marquer le coup de la naissance de cette collection-là. Ensuite, ça va s'étaler un peu plus sur le temps. Mais au-delà des anglo-saxons et de quelques français, il y aura aussi la porte ouverte sur un certain nombre de romans noirs qui viennent comme ça de pays plus ou moins lointains, l'Argentine, qui l'Espagne, qui le Mexique, l'Italie, etc., ou la Grèce. Et là, en l'occurrence, c'est le Mexique avec Serna. Serna, c'est un premier roman qui est paru au Mexique il y a quelques années que ça. C'est assez étonnant parce qu'il avait été repéré par Garcia Marquez à l'époque, ce qui n'est pas a priori un grand lecteur de romans noirs.
Mais qui est une très bonne référence, par contre.
Qui est une bonne référence, exact. Et en fait, je pense que Marquez l'a repéré parce que c'est une critique très très acerbe, voilée derrière une histoire assez, je dirais, un peu loufoque d'un policier qui est un journaliste raté et aussi écrivain raté qui est devenu plus ou moins policier par déception et puis pour vivre dans le petit train-train des fonctionnaires du Mexique et qui va se retrouver à devoir enquêter dans les milieux journalistiques et littéraires mexicains. Qu'il a placé dans son esprit sur un piédestal en se disant bon ben voilà j'ai raté ma vie, je suis devenu un pauvre flic, j'aurais pu être un grand écrivain, et en fait en rentrant dans ces milieux littéraires mexicains pour faire une enquête, il se rend compte que la corruption s'est généralisée à tel point que les collusions entre le pouvoir artistique et le pouvoir politique sont effrayantes, et que il n'est question que de renvois d'ascenseurs, que d'auteurs qui vivent de subventions, que de léchage de bottes politiques pour obtenir tel prix, etc. Donc on est dans une critique des milieux littéraires via une... En plus, avec cet aspect un peu exotique du Mexique, puisqu'on ne connaît pas forcément, c'est assez savoureux, en fait.
Il y a beaucoup de dérision. Enfin, il nous reste juste 2 minutes pour parler du Vautour. Enfin, ça s'appelle Le Vautour, pardon.
Le Vautour.
C'est un roman qui est américain, de Gilles Scott Heron, sans l'accent, je suis désolée. Donc, quelques mots sur ce dernier.
Alors, Scott Heron, c'est un auteur un peu spécial, puisque c'est un roman unique de cet auteur-là, qui au départ est beaucoup plus axé sur la musique, puisque c'est quelqu'un qui, dans les années 60-70, a beaucoup travaillé sur la musique, sur le soul, et sur même les débuts du rap à l'époque, en fait. Et là, on est dans une veine d'atmosphère un peu datée années 70, mais où on va être plongé complètement dans les quartiers new-yorkais de la drogue dans les années 70, en pleine période de revendication des Noirs américains. Et dans cet univers un peu spécial où se retrouvent 4 jeunes hommes, il y en a un qui est un dealer qui se fait assassiner. Et en fait, on a un roman qui est un roman polyphonique à 4 voix successives, qui chacun ont un petit fragment de la vérité sur la mort du jeune homme qu'on connaît dès le début. Et chacun d'entre eux représente l'intellectuel noir qui essaye de s'en sortir par les études, celui qui va suivre les traces du dealer et devenir le maître du quartier, etc. Donc chacun représente un petit bout de l'Amérique des années 70, à ce moment-là précis où les droits civiques des Noirs américains étaient en pleine crise, en fait, et où ils essayaient d'atteindre des droits civiques corrects.
Ben Lionel D'Instrument, il me reste à vous remercier de nous avoir en quelques minutes et fait le tour de ces 5 romans et surtout d'avoir parlé avec autant d'enthousiasme. J'espère que ça va donner envie à tous nos auditeurs de se précipiter et pour s'offrir et peut-être pour offrir pour les fêtes un de ces 5 romans, voire plusieurs d'entre eux, car ils sont très différents les uns des autres, mais tous de grande qualité. Et on espère avoir l'occasion de reparler des prochains qui sortiront maintenant, je suppose, en 2008.
Les prochains sont en janvier, oui, il y en aura 3 en janvier. Arriaga, Un doux parfum de mort, donc c'est aussi un Mexicain. C'est par ailleurs le scénariste de Babel, 21 grammes, 3 enterrements, etc. C'est un auteur à découvrir aussi. Charlie Hickson, qui est un auteur anglais, et Clarence Cooper, Bienvenue en enfer, qui était un auteur américain, où là c'est sur l'univers carcéral. Voilà, encore pour les 3 prochains de janvier.
Encore de belles pages à lire.
Voilà.
Merci beaucoup,
merci
monsieur D'Estremont. Au revoir.
Au revoir.
18h30 sur Agora FM. Bon début de soirée tout de suite.